magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, je vous propose de débuter cette émission avec un petit exercice. Prenez le temps d'observer les objets autour de vous et posez-vous la question. En quoi sont-ils faits? Quelle est la matière première de cette chaise sur laquelle vous êtes assis? Du métal, de cette table à côté? Quels sont par exemple l'ensemble des matériaux nécessaires pour que vous puissiez écouter cette émission? Si nous prenons le temps d'y réfléchir, tout ce qui nous entoure est le résultat d'une matière transformée. Ce que nous appelons nos ressources. Les métaux, les minerais, le charbon, le pétrole, le gaz, le sable, etc. Et nous avons tort de considérer qu'elles nous appartiennent. D'abord parce que ce n'est pas nous, les humains, qui les avons fabriqués. Par exemple, les mines de phosphate du Maroc, qui fournissent en engrais tout le continent africain, sont le résultat de l'accumulation de milliards d'organismes marins pendant des millions d'années. Et oui, toutes ces matières premières qui se sont formées sur des temps géologiques très longs existent en grande quantité sur notre planète, mais elles ne seront pas toutes accessibles car les extraire nécessitent de creuser avec des grosses machines qui utilisent elles-mêmes des quantités énormes de matière et d'énergie et en plus il faut que cela reste rentable. Alors que faire? Eh bien c'est justement à cette question que répondent nos invités, l'un en théorie, l'autre en pratique. Je vous les présente tout de suite.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Philippe Biwix.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes ingénieur, vous travaillez depuis presque 20 ans sur cette question des ressources et de leur utilisation et vous venez de publier avec le dessinateur Vincent Perriot une bande dessinée très pédagogue et pleine d'humour dont le titre est justement « Ressources, un défi pour l'humanité » chez Casterman. L'idée à travers cette bande dessinée, c'était de vous adresser à un public plus large que les nombreux livres que vous avez écrits précédemment.
Oui, évidemment, on se dit assez vite que l'objet de la bande dessinée, par la puissance du graphisme, les rythmes, les effets, ça peut emmener dans une histoire plus facilement qu'un essai sur les questions environnementales. Et donc, de s'adresser au plus grand nombre et puis... Voilà, aux citoyens que nous sommes, aux gens qui travaillent dans les entreprises, les collectivités, les administrations. Et puis éventuellement, allez, si on touche quelques décideurs politiques ou économiques, ça sera sympa aussi.
Mais pour les inciter à le lire, en tout cas, je peux dire que je disais, il y a beaucoup d'humour. Et alors, vous transportez avec Vincent Perriot grâce à différents objets de déplacement, hein, parce que c'est très varié dans le temps, dans l'espace. Et grâce à cela, vous nous emmenez au cœur de la matière et c'est très instructif. Nous allons y revenir. Bonjour Alassane Diallo.
Bonjour.
Vous présidez l'association Temps Libre avec laquelle vous avez cofondé plusieurs structures de réemploi dans différents domaines, dans le quartier de la Noue, à Bagnolet, dans l'est de Paris, et à Livry-Gargan. Alors comment est-ce que cette aventure a débuté pour vous qui êtes arrivé du Sénégal quand vous étiez enfant ?
Alors cette aventure a débuté pour moi d'une manière très très simple, c'est que je suis très observateur de l'environnement. Et quand j'observe une chose et que je me rends compte qu'à un besoin, je peux y répondre, je mets en place. Et il se trouve que j'ai observé pas mal de choses ces 20 dernières années sur le territoire de la Noue, qui est un quartier prioritaire. Et face à ces observations, je me suis dit qu'il fallait agir et j'ai agi. Et on a mis en place un certain nombre de choses. Et du coup, un certain nombre de projets qui ont vu le jour depuis ces années font le bonheur des habitants de ce quartier et sur la base du réemploi et de pratiques anti-gaspillage.
Alors nous allons détailler tout ça dans l'émission, mais c'est vrai que ça touche le sport, la mobilité, la musique et en plus ça crée beaucoup de liens sociaux. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais avant, je voudrais vous faire écouter une actualité qui a fait le tour du monde le week-end dernier et nos confrères d'Euronews l'ont aussi relayé.
C'est l'un des vols d'essai les plus ambitieux jamais réalisés à ce jour. Après un décollage réussi de la méga fusée Starship depuis la pointe sud du Texas... Les ingénieurs de SpaceX sont parvenus à contrôler et guider le propulseur principal du vaisseau spatial pour un retour sur sa rampe de lancement initiale 7 minutes plus tard, grâce à des bras mécaniques qui l'ont immobilisé. Un véritable exploit qualifié de science-fiction sans la partie fiction par Elon Musk, le patron de l'entreprise spatiale qui ambitionne d'utiliser son vaisseau pour coloniser Mars. Quant à l'étage supérieur de Starship, il a améri comme prévu dans l'océan Indien.
Alors pour Simon Rosé, qui est le chef du service environnement de RFI, nous en avons discuté. Pour lui, c'est du porno pour ingénieurs. Philippe Biwix, comment est-ce que vous réagissez à cette actualité ?
Je réagis en souriant, d'abord parce que c'est un clin d'œil évidemment au contenu de la BD, puisqu'on a deux personnages, Jeff Bezos et Elon Musk, qui vont apparaître un peu au fil des pages.
Avec
et qui,
Mark Zuckerberg un petit peu aussi
petit peu
de temps en temps.
Zuckerberg de temps en temps. Voilà, on aurait pu rajouter Sam Altman, hein, le cofondateur d'OpenAI avec ChatGPT, en fait, qui incarne la pensée cornucopienne. Donc cornucopia, c'est la corne d'abondance, c'est-à-dire le fait qu'on va toujours réussir à repousser les limites grâce à la technologie. Et en fait, on n'aura jamais de problème de ressources parce qu'en fait, l'imagination humaine est sans limite justement et qu'on peut de plus en plus et ben, en fait, apprendre à être plus efficace, apprendre à... Alors, réutiliser les fusées, c'est peut-être efficace d'un point de vue des ressources, hein, évidemment. Et en fait, on va chercher des vieux rêves. Alors, il faut savoir qu'ils sont quand même un peu barjots, hein, ou alors c'est des grands-enfants, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, Jeff Bezos, on démarre la BD là-dessus. En 2019, il a expliqué que l'humanité allait s'installer dans des grandes stations orbitales en forme de tore, hein, donc c'est des donuts en gros, hein, qui tournent sur eux-mêmes pour assurer une sensation de gravité à leurs habitants, et qu'on pourrait être 1000 milliards et qu'on va vivre dans l'espace, et c'est vachement plus efficace de vivre dans l'espace, parce que comme ça, on va pouvoir polluer l'espace, produire de l'industrie dans l'espace, et puis, du coup, sur Terre, ça sera sympa, il n'y aura plus que des consommateurs heureux, je sais pas quoi. Et Musk, c'est pareil, quoi. C'est un peu cette idée de nous projeter dans des rêves. Évidemment, on a tous été, quelque part, maintenant, biberonnés à la science-fiction, hein, même les plus anciens, maintenant. C'est comme cette ville futuriste de Neom, là, en Arabie Saoudite, où il y a cette idée, c'est presque le cinquième élément, vous voyez, de Luc Besson, avec des voitures volantes, des drones, etc. Et on se projette un peu dans cet univers-là. Mais en réalité, eh bien, à court terme, qu'est-ce que c'est ? Ça va être c'est du tourisme spatial pour hyper riches, et puis qui nous pollue encore un peu plus la planète. Et on n'y est pas encore sur Mars, quoi, hein.
Oui, mais le problème, c'est que c'est un mensonge extrêmement pervers, parce que ça façonne un peu l'imaginaire. Et comme vous le disiez, on a l'impression, du coup, que l'homme va trouver des solutions, quoi qu'il arrive, et que finalement, préserver la planète Terre, c'est peut-être pas si grave si on peut aller vivre ailleurs.
Alors oui, alors c'est... Alors Musk dit pas tout à fait ça, faut être presque honnête avec lui. Il dit, c'est au cas où on se prendrait un astéroïde sur la tronche.
Ah oui, d'accord.
C'est bien d'être sur Mars aussi, et donc d'avoir une double planète pour assurer que la civilisation humaine disparaisse pas bêtement, comme les dinosaures ont disparu à 60 millions d'années.
Mais en fait, on n'y arrivera jamais, parce qu'au-delà de cette actualité, dans votre bande dessinée, vous expliquez que nous n'avons jamais extrait autant de matière première qu'actuellement, et que dans les prochaines années, nous devrions en extraire plus que depuis l'aube de l'humanité. Mais qu'est-ce qui nous arrive ?
En fait, il vous arrive un truc très simple. Ça s'appelle la puissance de l'exponentiel, de la courbe exponentielle. Alors, c'est une notion mathématique un peu pénible, mais facile à comprendre depuis la crise sanitaire, hein, Covid-19. Et tous les 5 jours, le nombre de personnes contaminées, de personnes malades, doublait tous les 5 jours. Alors, 5 jours, ça fait x2, 10 jours, ça fait x4, 15 jours, ça fait x8. Et puis, au bout de quelques semaines, il faut tous se confiner, parce que sinon, la courbe, elle démarre très très fort et ça fait très très mal. Et il faut casser l'exponentielle. Eh bien, le monde dans lequel on vit, d'un point de vue matériel, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de doubler tous les 5 jours, le rythme d'extraction, il double tous les 15, 20, 25, 30, 35 ans, selon le rythme. Ça peut même aller beaucoup plus vite, hein, dans le cas, par exemple, du lithium pour les batteries des futures voitures électriques, enfin, ou même des voitures électriques actuelles. Et donc, en fait, cette exponentielle, ça fait que la dernière partie de la courbe, l'extraction, elle est gigantesque. Si aujourd'hui on divisait par 3 ou 4 la consommation, tout ce qu'on extrait chaque année de l'ensemble des métaux, ou quasiment, eh bien on reviendrait au rythme des années 90. Vous voyez, pourtant, se dire diviser par 3 ou 4, oh, ça serait un truc incroyable, ça serait hyper écolo. Bof, hein, les années 90, c'était pas très écolo. Donc on voit qu'en fait, on n'est pas du tout en train de rentrer dans une économie dématérialisée. Ou ce que les économistes appellent le découplage, c'est-à-dire pouvoir faire de la croissance du PIB, de la création de richesses, qu'on peut se répartir ensuite. Hein, c'est quand
même bien parti. En utilisant moins de matière.
En utilisant de moins en moins de matière ou d'énergie. En fait, on est plutôt dans un surcouplage, c'est-à-dire qu'on extrait de plus en plus vite, et notamment, pas que, mais à cause de la numérisation du monde, ou de son urbanisation, de son industrialisation.
Mais derrière chaque matière, il y a une mine, une industrie, des emplois, pas toujours dans de bonnes conditions. Amnesty International a publié cette semaine un rapport pour dénoncer le fait que les constructeurs automobiles, par exemple, n'encadrent pas suffisamment leur approvisionnement des minerais nécessaires aux batteries électriques. Mmh. Dans votre bande dessinée, vous expliquez de quoi est constitué un smartphone. 60 éléments chimiques, 45 métaux, un concentré miniature, écrivez-vous, d'extraction minière de plusieurs dizaines de pays. Alors, il y a l'or, il y a le coltan de République démocratique du Congo, c'est pour les micros, le cobalt, le lithium, vous en parliez pour les batteries. Alassane Diallo, est-ce que les gens avec lesquels vous travaillez travailler à Bagnolet ou à Livry-la-Gargan. Tous ceux qui profitent des structures de récupération que vous avez créées ont conscience de tout ce que vient de décrire Philippe Biwix.
D'autant plus que il y a un mouvement qui est assez fort en ce moment et qui, avec lequel j'ai collaboré, c'est Banlieue Climat. C'est un collectif d'acteurs engagés, Ferris Barkat, Sana, Abdelali et Sefiou. Et du coup, c'est aussi une nouvelle tendance qui fait qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande de la part de la jeunesse. Ils forment des jeunes à toutes ces notions écologiques et ces jeunes deviennent eux-mêmes formateurs d'autres jeunes au sein de...
C'est exponentiel aussi, alors.
Ça devient exponentiel. Et en fait, je pense que la prise de conscience permet d'avoir des gestes éco-responsables sans être moralisateur et donner des leçons. Ça marche sur les territoires sur lesquels moi j'interviens. Et je vois que les actions que j'ai mises en place ont permis à certains qui étaient au début, là, juste pour la consommation, de se poser la question de comment faire autrement et d'une manière durable.
Alors au début, on vous a traité un peu de bobo.
Je ne prends pas ça comme quelque chose de négatif. Mmh. Et par contre, je trouve qu'on souffre énormément des représentations. Et les représentations que toute personne peut se faire d'une autre peuvent être préjudiciables dans le sens où on nous met dans des cases et on nous attend à un endroit où on est censé être. Et moi qui traite ces questions-là sur un territoire qui est en banlieue,
dans une zone prioritaire, un quartier très populaire, une cité, quoi.
Oui, et du coup, quand ces actions de ressourcerie, de mobilité douce ont été mises en place dans le territoire, forcément, ça a surpris des personnes, comme si c'était des sujets pour lesquels le monopole était dédié à d'autres.
À 200 mètres de l'autre côté du périphérique, alors, à l'intérieur de Paris.
Tout à fait. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que les représentations qu'on se fait de ces pratiques-là sont parfois justement trompeuses. C'est que les pratiques qui existent sur le territoire de Bagnolet, quand elles sont faites de l'autre côté du périph, on a tendance à qualifier ça de débrouillardise, de débrouille, et du coup à les dévaloriser, alors que ce sont des actions vertueuses. Tandis que quand c'est de l'autre côté du périph, à d'autres endroits, on a tendance à les qualifier de très vertueuses, très ingénieuses et d'innovation.
Enfin, nous, on vous invite ici parce qu'on trouve que ce que vous faites est formidable. Alors, on va parler plus concrètement dans un instant de ce que vous faites sur le terrain, mais on va d'abord écouter des enfants que vous connaissez, hein, oui, puisque ce sont les enfants du centre culturel Guy Toffoletti à Bagnolet. Oui. Ils ont tourné un clip. Expliquez-nous cette histoire.
Alors, il se trouve que je suis toujours dans une logique d'observer les besoins et les besoins exprimés, les besoins non exprimés de la part des habitants, encore plus des habitants enfants. Et on remarquait que la pratique musicale était quelque chose de pas facile, car souvent ce sont les familles d'initiés qui ont le réflexe d'inscrire leur gamin au conservatoire. Mais les conservatoires ont des places limitées et du coup, c'est souvent une pratique qui devient presque élitiste. Et du coup, fort de ce constat, je me suis dit que nos gamins ont aussi plein de compétences, plein d'énergie. Et donc, le fait d'avoir mis en place un conteneur dans lequel on a une batterie, une guitare, un piano et d'autres instruments, et
d'avoir, que vous avez récupéré,
qu'on a récupéré, avec la participation d'habitants qui sont eux-mêmes des musiciens, on a mis en place un atelier de pratique musicale et un studio d'enregistrement en plein milieu des tours. Et ça a permis à des gamins de venir chanter et apprendre à jouer.
Voilà, et ça donne ça.
On est là pour beatboxer, bully, et aller au rap sans forcer. Le matin, je peux me réveiller, je garde ma tête sur l'oreiller. La télé s'allume, je mets Naruto. Nous, c'est Ricky Zoom, on fait de la moto.
Comment ton pancho, assume tes goûts, assume ton flow. Comment
C'était les enfants du centre culturel Guy Toffoletti de Bagnolet sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Nous parlons de notre soif insatiable de matières premières. Nous creusons, brûlons, chauffons, raffinons toujours plus pour produire des quantités phénoménales d'objets, notamment électriques et électroniques. Alors pour prendre conscience de ce qu'ils deviennent en fin de vie, je vous propose d'aller au Cameroun, à Yaoundé. Selon les chiffres officiels, 77 000 tonnes de ces déchets sont produits chaque année dans ce pays. Nous avons rendez-vous dans le quartier de Tsinga Elobi, le quartier des ferrailleurs, avec Sylvère Wanji, le directeur d'exploitation du centre de recyclage de l'association Solidarité Technologique.
Nous sommes ici en plein cœur du quartier Tsinga Elobi. En fait, c'est dans le secteur du recyclage, le secteur informel, dans ce qui concerne les croiseux, déchets d'équipements électriques et électroniques.
Alors on voit autour de nous, il y a plein de gens qui essayent justement de récupérer plein de matières. Quelles sont les matières les plus recherchées ?
Alors ici, ils récupèrent un peu de tout, hein. C'est généralement de la matière qui a de la valeur. Parce que ce qui est polluant, ils s'en foutent de ça. Donc pour citer, il y a de la ferraille, du cuivre, de l'aluminium, des batteries au plomb, qui parviennent avec des moyens qu'ils ont mis sur pied, hein, archaïques à la main, qui parviennent à récupérer et quand ils ont le stock, ils partent le faire livrer sur le doigt-là à des personnes qui, à leur tour, font exporter.
Alors on a vu en arrivant, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a les déchets électriques, les déchets électroniques, il y a aussi des voitures.
Effectivement, comme j'ai dit tout tantôt, ils prennent tout, ils récupèrent tout à la base. Mais maintenant, arrivé ici, ils récupèrent la matière qui les intéresse. Il peut y avoir des camions qu'ils achètent dans des propriétaires, des vélos comme on a vu tout à l'heure qui viennent dans des brocantes, c'est-à-dire qui viennent de l'Europe, des matières décroiseuses qu'ils récupèrent soit chez des ménages ou dans des structures qui rachètent.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je suis Aladji Sali. Je suis dans le domaine des ferrailles. Ça fait déjà 20 ans. Et ce qui porte le plus d'argent, c'est le cuivre. Le fer, les aluminiums, comme ça. Comme tu as vu que c'est déjà passé, là, ils vont amener là-bas derrière pour aller fabriquer le marmite pour préparer avec ça.
Et comment vous extrayez le cuivre ?
Le cuivre, on ne brûle pas. On amène ça directement juste comme ça.
Sylvain Wanji, vous voulez intervenir ?
Oui, justement, c'est du cuivre. Ça ne se couvre pas comme de la ferraille où tu trouves 5 kg de cuivre à racheter. Ça sort généralement des bobines, des moteurs. Donc quand ils ont racheté des équipements, ils vont venir casser, sortir des petites bobines. Ils vont casser, parfois mettre dans du feu pour récupérer du cuivre. C'est pour ça que ça a une valeur très grande sur le marché.
Et est-ce qu'il y a des enjeux sanitaires derrière tout ça ?
Mais quand vous voyez autour de vous, vous comprenez tout. C'est compliqué ici, c'est compliqué. Compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, sans se cacher, on interpelle le gouvernement pour faire quelque chose. Soit les accompagner dans la formation sur le recyclage, soit créer un centre où ils viendront tous travailler et que constamment, que ce ne soit pas des habitations à côté, ce serait bien.
Oui, parce que là, les gens habitent où ils travaillent, donc ils sont entourés des déchets.
Je vais vous montrer même les chambres ici, là-dedans. On habite, il y a les familles, ils sont derrière là, tout. On habite là. Oui, c'est pour cela que tu vois qu'on manque. On est nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici.
Mais est-ce qu'il y a des maladies ? Est-ce qu'il y en a qui tombent malades ?
Tu vois comment l'endroit que nous on habite, il y a souvent les gratteurs, ça gratte le gal, ça gratte les enfants qui travaillent, oui. C'est tout, la toux, tout, oui.
La toux, ils toussent beaucoup ?
Oui, toussent beaucoup.
Pourquoi ? À cause des fumées ?
Si tu ne vois pas les poubelles là que tu vois là, c'est ça qui fait les fumées là, si ça entre dans le tout là, ça donne le tout.
Oui, pour les maladies, vous voyez les enfants qui passent avec des gros morceaux de ferraille, ils n'ont pas de protection, pas de gants de travail.
Le petit garçon qui est passé, là, il avait 7-8 ans, quoi.
Oui, il n'y a pas de gants de protection, c'est-à-dire que parfois, c'est des coupures, c'est des pieds qui vont se couper dans le verre au sol. Concernant cela, tout, à cause des fumées qu'ils inhalent. Parce que tout est brûlé ici à la flamme, hein. Que ce soit des pneus de véhicules, des plastiques, n'importe quoi, pour récupérer la matière importante à l'intérieur. Et concernant la poussière qui colle là et tout, c'est la gale. Et à la fin, pas de moyen pour se soigner. Donc vous comprenez que c'est dangereux ça.
Un reportage réalisé avec et par François Porcheron à Yaoundé, au quartier des Ferrailleurs. Alassane Diallo, vous présidez, je rappelle, l'association Temps Libre, avec laquelle vous avez confondé plusieurs structures de réemploi dans le quartier de Lannou, à Bagnolet et à Livry-le-Gargan, dans l'Est de Paris. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage tourné à Yaoundé ?
Ce reportage ne me laisse pas indifférent, car on se rend compte qu'il y en a par nécessité. Ils ont recours au réemploi, mais à vouloir gagner leur vie, ils peuvent la perdre, d'un point de vue sanitaire et santé. C'est des conditions qu'on peut observer ici également en France, parce que j'ai aussi pour habitude de faire des tours dans certains lieux qui récupèrent la ferraille, et on voit aussi des conditions de travail qui ressemblent beaucoup à ça. Et au-delà de ça, je pense que l'exposition à la santé, elle est aussi plus grande que ce qu'on peut imaginer. Moi qui suis justement pas loin du plus grand échangeur d'Europe, et je me rends compte que c'est quand même le lieu qui connaît un pic de pollution très grand.
300 000 voitures par jour, je crois, c'est ça ?
Pas loin de ça. Mm. Et il se trouve que, je ne sais pas qui a eu la fameuse idée de mettre tous les city-stades au-dessus du périphérique. Et il se trouve que c'est aussi aux heures de pointe que les émanations de pots d'échappement sont les plus grands. En voulant pratiquer du sport pour avoir une meilleure santé, on se rend compte que c'est quand même à ces horaires-là que les gens sont plus à risque de se bousiller une santé.
Philippe Biwix, comment vous réagissez à ce reportage ?
D'une double manière. La première, c'est évidemment le monde passionnant du recyclage. Alors, il y a du recyclage informel, là, c'est cet exemple-là. Il faut savoir que beaucoup de déchets électroniques sont exportés sous forme de matériel d'occasion.
Il n'en est plus vraiment. Bonne occasion de s'en débarrasser, de pas payer justement le recyclage.
En Afrique de l'Ouest, mais aussi au Pakistan, en Chine, en fonction des différentes provenances, pour circonvenir à la Convention de Bâle qui interdit le commerce de déchets dangereux. Et puis ensuite, effectivement, on va arriver devant des produits qui sont très complexes, soit complexes parce qu'ils contiennent plein de métaux différents, soit complexes parce que ce sont des alliages qui sont eux-mêmes des mélanges de métaux qu'on ne va pas pouvoir forcément séparer ensuite. Et donc, on va, alors quand on est dans du très informel, on va plutôt aller se concentrer sur quelques produits qui ont vraiment plus de valeur. Donc,
on entendait le cuivre, le fer, l'aluminium.
Le fer et l'aluminium sont assez faciles à récupérer parce que l'aluminium n'est pas trop mélangé avec autre chose, on va dire ça comme ça. Le fer, c'est mélanger un peu avec autre chose, mais finalement, ça va refaire quand même de l'acier. Et puis après, effectivement, il y a le cuivre, il y a l'or dans les microprocesseurs, quelques trucs comme ça. Et même quand on est dans du recyclage, disons, plus contrôlé, il y a un certain nombre d'usines de classe mondiale, comme on dit, qui savent traiter les déchets électroniques. Et bien, en fait, on recycle très mal. Les fameux 45 métaux dont vous parliez tout à l'heure dans le smartphone, eh bien, on va peut-être en récupérer une dizaine, une quinzaine. On va se concentrer là aussi sur ce qui vaut le coup de récupérer. Et alors pourquoi on ne fait pas mieux finalement ? Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de réalité économique derrière.
Il n'y a pas de filière construite.
C'est même au-delà de la filière, c'est-à-dire que dans un smartphone, vous avez 2 à 3 euros de matière première en tout.
À la sortie
on va dire du métal qui a été transformé. Donc il y a le travail de minéralurgie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le traitement du minerai, et puis le travail de métallurgie. Et ensuite, il va y avoir... Évidemment, ce n'est pas que de la marge ensuite pour faire un smartphone à plusieurs centaines d'euros. Hein. Et il va y avoir tout l'amortissement des usines, le développement, la transformation dans tous ces petits produits. Et donc, il n'y a que 2 ou 3 euros de matière première à l'intérieur à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, parce qu'en fait, dès que vous allez avoir du travail humain pour bien démonter, pour bien séparer toutes les petites pièces, pour essayer d'optimiser finalement le taux de recyclage ou même le taux de réemploi, on pourrait dire un certain nombre de pièces détachées. Parce qu'un smartphone qui ne marche plus, peut-être qu'il y a plein d'équipements à l'intérieur qui marchaient encore. Eh bien, en fait, ce n'est pas possible, ça va devenir très vite bien trop cher. Et ce que vous allez réussir à revendre, ça ne vaut pas le coup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va broyer, on va faire quelque chose qui est très mécanique, parce que ça n'utilise pas trop de main-d'œuvre, ça, c'est bien. Ça utilise de l'énergie, mais pas de la main-d'œuvre. Et puis ensuite, on va faire de la chimie, de la métallurgie, mais on ne va pas réussir à tout récupérer. Et donc, le gâchis est vraiment incroyable. Il faut savoir que sur les 60 métaux éléments chimiques qu'on utilise au global dans notre civilisation industrielle, eh bien là, il y en a un tiers au moins, enfin entre un tiers et la moitié, qui sont recyclés à moins de 1% à l'échelle mondiale, c'est-à-dire quasiment pas.
Oui, donc à partir du moment où on extrait, en fait, on
extrait et ça sera perdu pour toujours pour les générations futures. Tout à l'heure, vous disiez que c'était Gaïa qui avait patiemment préparé tous ces métaux, toutes ces concentrations minérales sur les temps géologiques. Effectivement, ça peut être même des milliards d'années parfois. Les mines de fer, elles se sont créées pour la plupart. Les concentrations en fer se sont créées il y a des milliards d'années. C'est une collaboration en réalité entre Gaïa et l'humanité, parce que Gaïa prépare le minerai un peu plus concentré qu'ailleurs. Et puis l'humanité va apprendre à concentrer ce minerai encore plus et à le transformer en métal. Mais c'est une fois pour toutes. C'est effectivement ce qu'on appelle une ressource non renouvelable. C'est-à-dire qu'elle ne se renouvellera pas, en tout cas à l'échelle des civilisations humaines. À l'échelle géologique, oui, quoi. Dans un milliard d'années, il y aura eu encore de la tectonique des plaques, les continents auront dérivé, il y aura du volcanisme, tout se passe bien, quoi. On peut recommencer à zéro. Mais dans un milliard d'années, quoi, ou dans 500 millions d'années. Là, pour notre civilisation, pour les quelques milliers d'années qui se présentent devant nous, eh bien, c'est perdu pour toujours. C'est-à-dire que ce que vous avez incorporé dans votre smartphone ne sera pas disponible d'une manière ou d'une autre pour le radiologue ou le chirurgien ou le dentiste de l'année 2300.
Il va falloir faire des choix entre tous les écrans que nous voyons partout et les écrans de nécessité. On en parlera tout à l'heure. Mais Alassane Diallo, justement, vous, avec l'association Temps Libre, vous avez créé, on le disait, plusieurs structures de réemploi. Alors expliquez-nous comment ça marche. Donnez-nous quelques exemples.
Alors, c'est très simple. C'est que pour atténuer les effets de la consommation et de la surproduction, je pense qu'il faut être capable de donner des secondes vies aux objets. Et donner une seconde vie aux objets, c'est une des solutions, je pense. Car aujourd'hui, il y a une course à la possession. Et on se rend compte que dans les valeurs actuelles, pour devenir quelqu'un, il faut posséder. Or que moi, de par mon éducation, j'ai le souvenir que pour devenir quelqu'un, il faut être. Et du coup, la transmission des savoir-faire, des savoir-être, c'était une priorité. Et j'ai l'impression que ça a glissé doucement vers quelque chose qui ressemble à... pour devenir quelqu'un, il faut posséder. Et
oui, on veut le dernier smartphone à la mode, les vêtements les plus récents, voilà. Tout ça. Oui.
Et donc, pendant la crise sanitaire, on s'en est rendu compte très rapidement sur le territoire. Quand les gamins ne pouvaient plus aller à l'école, il a fallu faire de la continuité scolaire et il fallait des ordinateurs. Et forcément, les familles les plus modestes n'avaient pas d'ordinateur. Et du coup, en faisant appel au réseau, on a récupéré plein d'ordinateurs qui dormaient en fait chez chacun. Et du coup, on se rend compte que finalement, il y a plein de matières aujourd'hui qui dorment chez les particuliers, mais qui dorment chez les enseignes, qui dorment chez les entreprises. Et juste avoir pris le temps de recenser et de faire un appel aux dons, c'est autant de matériel qui n'a pas été acheté par des familles. Et du coup, ce qui est valable pour ça était valable aussi pour les vélos, parce qu'on a récupéré chez les bailleurs, chez plein d'entreprises, des vélos qui étaient laissés pour mort et qu'ils étaient là. Et du coup, le fait d'avoir récupéré des vélos, ça a permis à certains de pouvoir circuler à vélo. Parce qu'on a récupéré des vélos qui étaient...
Jusqu'à Londres même. Il y a eu un voyage jusqu'à Londres.
Il y a eu un voyage jusqu'à Londres. En fait, il y a un groupe de jeunes qui, sous l'impulsion des encadrants, on nourrit le projet de partir du 93 et de partir loin. Il se trouve qu'ils ont atterri jusqu'à Londres. Et c'est quelque chose pour lequel on est très fiers, parce que c'est aussi une manière de dire qu'avec très peu de moyens, on peut aussi voyager et voyager...
loin et pas cher, et puis ça rend sexy le vélo. Exactement. Ça le rend désirable, j'imagine, ça fait un peu rêver tout le monde d'aller à Londres. Et puis vous avez aussi créé une salle de sport à partir de matériaux recyclés.
Je suis parti du même constat que, aujourd'hui les gens achètent à chaque fois beaucoup de machines de sport à la veille de l'été pour se faire les abdos, pour se faire un corps de rêve. Ils l'utilisent une fois, deux fois, et peu de temps après, ils sont amenés à le garder en stock à la maison ou à le déposer en pied d'immeuble ou carrément le vendre. Et donc, je me suis dit, plus on va créer des espaces communs où les gens pourront avoir l'usage de ce matériel-là qu'ils n'ont pas besoin d'acheter en quantité illimitée, moins il y aura de gaspillage. Et donc, en fait, c'est ce qui fait le succès de toutes mes actions, c'est qu'en fait, ça devient des solutions d'intérêt général et d'intérêt commun. C'est aussi comme ça qu'on s'approprie l'espace public. Et en s'appropriant l'espace public, on répond à plein de besoins et d'envies des habitants. Et en fait, collectivement, ils arrivent finalement à satisfaire les uns les autres ce genre de demande. Je pense que c'est une des solutions. C'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'individualiser toutes les pratiques, mais faire en sorte que les gens continuent à vivre ensemble.
Vous partez des besoins du territoire, Philippe Biwix, il faudrait des millions d'Alassane Diallo.
Ah bah oui, il faut une courbe exponentielle des initiatives, effectivement, sur les territoires, ça en fait partie. En fait, simplement, c'est complémentaire de plein d'autres choses. Il ne faut pas oublier aussi le rôle de la puissance publique, un peu à toutes les échelles. Pas seulement pour soutenir des initiatives éventuellement, et en particulier en stade de démarrage éventuellement, mais aussi parce qu'il faut venir quand même un peu changer les règles du jeu. C'est-à-dire que la notion de sobriété, hein, c'est un peu cette idée de dire finalement, bah, si j'injecte moins dans le cycle de production, finalement, bah, c'est autant de matière que je ne vais pas utiliser et que je ne vais pas perdre pour les générations futures. C'est génial. Puis en plus, bah, le fait de ne pas transformer ces matières, ça va économiser de l'énergie, c'est bon pour le climat, donc ça coche toutes les cases. Mais la sobriété, qu'on manie un petit peu, en tout cas en France ou dans un bout de l'ouest de l'Europe depuis qu'il y a eu l'explosion des prix d'énergie suivant le démarrage de la guerre en Ukraine, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu comme les autres mots, hein, c'est un peu comme développement durable et quelques autres. Chacun voit un peu la forme de sobriété qu'il veut, quoi. Donc pour l'instant, la sobriété un peu gouvernementale, c'est plutôt c'est un peu l'austérité, quoi. C'est, on se serre un peu la ceinture, on chauffe moins, en covoiture éventuellement, et puis c'est de l'efficacité industrielle. Mais la vraie sobriété, moi j'appelle à une sobriété systémique et une sobriété organisée. C'est-à-dire effectivement où on peut partager des choses, mutualiser, on peut partager des objets, mais on peut aussi partager, mutualiser des lieux. Une école, ça peut devenir aussi le lieu qui accueille des associations, qui accueille...
Une salle de spectacle le soir parce que l'école est vide le soir.
Exactement, des clubs de musique, j'en sais rien. Enfin, il y a mille manières de mieux occuper les lieux qu'aujourd'hui, hein, d'intensifier les usages. Au lieu de construire du neuf à côté en disant, bah oui, tiens, il faut la médiathèque.
Mais vous dites qu'il y a un tiers des bâtiments en France qui ne sont pas utilisés, par exemple, alors qu'on continue à construire du neuf.
Alors qu'ils sont soit vacants, soit sous-utilisés. Alors, il y a une définition dans sous-utilisé, c'est par exemple, bah, vous avez une maison qui a été, ou un appartement qui a été dimensionné pour votre famille, et puis à un moment, bah, les enfants vont partir faire leurs études ou fonder leur foyer, et donc bah, vous n'allez pas forcément changer de maison ou d'appartement, surtout si vous avez mis 20 ou 30 ans à la rembourser ou je ne sais pas quoi, et bien vous vous retrouvez dans une situation de sous-occupation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser les gens et jeter les gens en dehors de chez eux, mais par exemple, on peut imaginer que vous accueillez vous-même des jeunes travailleurs ou des étudiants qui, eux, arrivent peut-être de l'autre bout de la France, et en fait, ça permet bah, d'éviter de construire d'autres résidences. Étudiants, voilà. Il y a des choses comme ça à aller chercher.
Voilà, des idées, il y en a plein, voilà pour la théorie, mais aussi pour la pratique. Nous allons détailler tout cela, même si ce n'est pas très simple à impulser à grande échelle. Alors, le temps de prendre notre élan, je vous propose un petit voyage en Guinée-Bissau, mais sans émission de CO2, puisqu'il sera musical, avec Nancy Vieira et son titre « Sol Dina Vida » dans « C'est pas du vent », évidemment.
De bucaça, volto já solta a canga. E passando junta, o sol cunha sol, pra não fazer sol. E passando junta, o sol cunha sol, pra não fazer sol. Toma um coração, toma um boca. Toma corpo, toma alma, toma tudo. Mas dambu sol, dambu luz, dambu praga. Pão pona mim, pão crevo teu. Toma coração, toma boca, toma corpo, toma alma, toma tudo. Mas dambu sol. Dambu luz, budambu praga. Sol, pra não fazer sol.
mas basta no juntar o sol, punha sol, para não fazer o sol. Toma um coração, toma um boca, toma um corpo, toma um alma, toma um tudo, mas dambu sol, dambu luz, dambu praga. Madambu sol, dambu luz, budambu praga, pamponani pancrebucheu.
Sol d'Inavida, un titre de la Guinéenne Nancy Vieira que vous pourrez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées. Ça, ça va consommer pas mal d'énergie et de matériaux.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Le problème de la transition écologique, on le représente en disant que c'est l'État qui essaye de venir à bout des résistances de la société civile.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Mais c'est pas ça en fait. La transition écologique, c'est la société civile qui essaye de venir à bout des résistances de l'État. Ce qu'il faut déverrouiller fondamentalement, c'est l'inertie intellectuelle des gens qui gouvernent.
Nous parlons de notre soif insatiable de matières premières avec nos invités Alassane Diallo et Philippe Biwix. Et la semaine dernière s'est tenu à Hyères, dans le sud de la France, le congrès mondial des gardes nature. Lucille Gimbert y a rencontré Lucien Gédéon Lukumu. Il dirige le parc national de la Maïko, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Et dans cette partie orientale du pays, un conflit oppose le gouvernement aux rebelles du M23, soutenu notamment par le Rwanda, et d'autres groupes armés sont aussi actifs dans la région. Lucien Lukumu lance un appel. Le parc de la Maïko a besoin de donateurs, d'appui financier et de chercheurs pour explorer davantage le vivant présent dans le parc et pour protéger cette richesse des multiples pressions qu'elle subit, notamment des pressions minières.
Le parc national de la Maïko, c'est un petit pays dont la superficie est de 10 830 km². Comme beaucoup de parcs de la RDC, c'est un grand parc forestier, vraiment une forêt dense primaire. C'est un parc qui se situe dans une zone de transition entre le bassin du fleuve Congo, qui constitue dans la RDC, Congo-Brazza et puis Centrafrique, et la partie de Rift Albertin. Vous montez vers la haute altitude. Et Maïko aussi, comme il y a une partie du bassin du Congo, c'est aussi une grande partie aussi des zones de tourbières.
Et les tourbières, c'est des zones humides, en fait, là où la terre s'accumule et il y a une richesse liée à cet humus.
Effectivement, beaucoup de marécages. Sur la profondeur, je ne sais pas, ça sera combien de mètres sous le marécage pour voir autant de couches d'humus qui sont abondantes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la zone n'est pas encore valorisée sur le crédit carbone. Donc cela signifie qu'il y a encore une grande richesse. Et de cela, si vous voyez que là où il y a plus d'humus, il y a ces zones de tourbières, il y a aussi autant de minerais qui doit se trouver là-bas. Donc toute la zone, c'est aussi une zone minière, à l'extérieur du parc et dans le parc. Et vous comprenez qu'avec cela, ça attire beaucoup de choses, beaucoup de personnes.
Sur cette question de la pression minière qu'il y a autour du parc de la Maïko, comment ça se traduit concrètement? Est-ce que c'est des intrusions? Est-ce que c'est des parties du parc qui ont été envahies? Est-ce que c'est des grosses industries, des petits extracteurs de minerais?
Au niveau de la Maïko, ce n'est pas encore les industriels qui sont là. Ce sont des communautés pour leur survie, parce qu'ils savent qu'il y a de l'or là-bas, il y a des coltans, il y a un peu de cassiterite, il peut aller, il prend des petites choses où il peut manger avec ça pendant une semaine et puis il retourne. Mais dans d'autres aires protégées, il y a des industriels, des semi-industriels qui poussent déjà. Mais nos autorités de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ils ont fait un grand effort de lobbying. Aujourd'hui, ils poussent la politique afin qu'on ait le même cadastre pour dire que si il y a de besoin de miniers pour l'exploitation, il faut d'abord qu'on puisse superposer toutes les cartes pour voir que donc ça ne peut pas piétiner une aire protégée. Il y a un grand travail à faire, mais la RDC a une pression terrible, une pression de ceux qui sont de l'extérieur. La RDC a besoin de se développer, donc ils ont besoin aussi d'avoir de miniers pour exploiter nos mines, pour développer les pays. La RDC a besoin aussi d'exploiter son bois, mais pas dans les aires protégées, mais en dehors des aires protégées, parce qu'on a cette grâce-là de Dieu d'avoir cette forêt-là. La RDC peut exploiter son eau. Donc là où il n'y a pas des aires protégées, il y a la capacité. Là où nous demandons qui peut accrocher pour ne pas atteindre l'objectif 30-30, de dire que les aires protégées, que ça ne puisse pas être touché, afin que nous ne puissions pas perdre déjà une grande partie de ce qui est conservé.
Gédéon Loukomou, le directeur du parc national de la Maïko dans l'est de la République démocratique du Congo, interrogé par Lucille Gimbert. Philippe Biwix, derrière l'extraction des matières premières, on vient de l'entendre, il y a toute une économie qu'il va être difficile de freiner. Les pays qui ont des richesses ont envie de les exploiter.
Oui, bien sûr. Moi, je suis très touché par ce reportage, d'autant plus que j'ai vécu un an en République démocratique du Congo et je vois à peu près la situation terrible dans laquelle est le Kivu, dans le silence le plus absolu, quoi. Avec, bon, global, quand même, la somme des guerres civiles, on doit être à 6 millions de morts, je pense, aujourd'hui, en RDC. Donc, c'est terrible. Et effectivement, avec, alors, dans le Kivu, il y a effectivement l'or, les diamants, la cassitérite, donc c'est le minerai d'étain. Hein, donc, ça permet de faire notamment la soudure électronique, vous voyez les petits points qui sont sur les cartes vertes électroniques là, qui permettent d'accrocher un peu les trucs, et puis le coltan, donc, notamment le tantal qui sert dans les micro-condensateurs, donc c'est les petits cylindres colorés, voilà, si vous faites tomber votre téléphone par terre, vous allez les reconnaître comme ça. Donc bien entendu que c'est une richesse potentielle, mais les économistes travaillent aussi depuis longtemps sur la question de la malédiction des matières premières, sur le fait que finalement, quand on est un grand pays producteur de matières premières, c'est pas toujours facile de réussir à se développer grâce à l'extraction minière, et qu'au contraire, plutôt, on se retrouve un peu dans une nasse à finalement ne pas avoir la valeur ajoutée correspondante et finalement être exploité et vendre ses ressources à vil prix, si je puis dire. Et puis même avec des conséquences, évidemment, là, dans les guerres civiles. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas juste protéger les parcs nationaux, parce qu'ils représentent un certain pourcentage de la superficie qui pourrait toujours être plus important, mais il faut avoir une gestion durable aussi à l'extérieur de ces parcs, et puis sans doute des zones tampons, etc. Donc, quand on parle du bois, bah, c'est OK, on peut couper du bois, on peut exploiter du bois, mais de quelle manière on le fait? Parce qu'aujourd'hui, la manière dont c'est fait, c'est pas forcément fait avec beaucoup de discernement, quoi, voilà. Et donc, moi, la seule chose que je vois, c'est que je trouve que, voilà, ces matières premières, elles sont pas payées à leur juste prix, en fait, à personne. Et en particulier, bah, aux pays en question dont on va finalement extraire les richesses, mais aussi aux personnes qui y travaillent, qui n'ont pas forcément de protection sociale, de protection environnementale.
Souvent dans des conditions très difficiles,
plus
d'ailleurs.
Ou moins formelles, là encore. Hein, il y a des choses qui sont très mécanisées. Hein, les mines de cuivre et de cobalt sont plutôt mécanisées. Puis il y a aussi à côté de la production informelle de cobalt avec des creuseurs qu'on voit régulièrement passer aux infos.
On arrive un petit peu à la fin de cette émission, malheureusement, donc on ne va pas pouvoir tout dire, hein, puis les auditeurs ont qu'à lire votre bande dessinée Ressources, un défi pour l'humanité. Mais vous dites en gros que les pistes qui seraient possibles d'explorer, c'est développer les low-tech, ces technologies qui sont durables et qui consomment assez peu de matières premières. On a un champion dont on parle souvent dans cette émission qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui nous en partage régulièrement. Et puis aussi devenir expert du démantèlement, c'est-à-dire finalement être capable de réutiliser à partir de ce qu'on a déjà construit, ça peut être des pistes.
Alors, il y a la piste de la sobriété qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a la piste de la réparation, rentrer dans une économie de la réparabilité. Je veux dire, OK pour le téléphone et puis la fast fashion, mais enfin, on ne devient pas plus heureux parce qu'on est obligé de jeter son aspirateur et d'en racheter un, parce qu'il a duré que 5 ans et qu'on n'a pas su l'entretenir ou qu'il n'a pas été conçu pour se maintenir. Or, il y a pourtant plein de choses qui nous entourent qui sont faites pour durer. Un tramway, on ne le jette pas tous les 5 ans. Un train, on ne le jette pas tous les 5 ans. Un avion, on ne le jette pas tous les 5 ans. Donc il y a vrai moyen, sur toute notre consommation du quotidien, finalement, de redévelopper aussi cette logique de la réparation. Alors qui, d'ailleurs, dans un certain nombre de... des fois, on entend les pays pauvres sont moins écolos que les pays riches. Moi, je pense que ce n'est pas du tout vrai. Je pense qu'au contraire, il y a des pratiques de réparation, de transformation, d'adaptation, de cannibalisation, quelque part, des objets et qu'on peut retransformer. On appelle ça le remanufacturing. Effectivement, Corentin, de temps en temps, revient avec quelques beaux exemples. Il y a vraiment une foultitude de pratiques possibles qui sont extrêmement intéressantes pour économiser les ressources. Ouais.
Et pour le mettre en place, ça, Alassane Diallo, vous vous dites qu'il faut partir des besoins des habitants, identifier ce que peut offrir le territoire aux habitants et surtout aux invisibles, ceux que vous appelez les invisibles.
Alors moi, je dis invisibles parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes disent, mais ils ne sont pas invisibles pour nous, on les côtoie au quotidien. Et du coup, c'est parce que nous sommes des acteurs d'hyper-proximité. Et je pense que il va falloir aujourd'hui qu'on fasse confiance aux acteurs d'hyper-proximité parce qu'ils ont une expertise que personne d'autre peut égaler sur la connaissance des territoires. Et du coup, le fait de connaître les individus et en même temps les espaces, ils ont quand même un temps d'avance. Et du coup, je pense que même dans la définition des politiques publiques, on ne peut plus faire l'économie que de les concerter et de les impliquer à ça.
Tout en expliquant que l'écologie, ce n'est pas un problème de riches. Hein.
L'écologie, ce n'est pas un problème de riches. Et moi, pour moi, nos territoires sont des ressourceries à ciel ouvert. C'est des ressourceries dans le sens large du terme où il y a de forts potentiels humains. Et du coup, il y a de la compétence humaine qui est là en latence et qui n'est pas mise en exergue. Chose que moi, j'arrive à faire facilement. Et du coup, je pense qu'à d'autres endroits, on peut faire la même chose. Il faut reconsidérer les personnes, il faut leur donner de la considération. Et on va être surpris de voir qu'ils sont capables, à partir de leurs compétences, d'apporter des solutions.
D'ailleurs, ce que vous avez fait à Bagnolet entre 2018 et jusqu'à l'année dernière, vous le reproduisez actuellement à Livry-Guingamp. Donc la preuve qu'on peut en fait transposer votre méthode à d'autres territoires.
C'est les mêmes postures. C'est-à-dire que je suis parti de ma zone de confort, là où j'avais un ancrage fort. Donc on aurait pu imaginer que c'était avec facilité que j'ai réussi à faire ça. Et du coup, je me suis challengé moi-même à aller faire ça ailleurs. Et du coup, en moins d'un an, j'ai réussi à reproduire les mêmes résultats avec les mêmes procédures. Et les gens s'approprient les projets et les gens sont doués de talent. Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire aussi, d'apporter leur pierre à l'édifice. Et du coup, quand on dit que dans les quartiers ou en banlieue, la question de l'écologie, ce n'est pas une priorité et qu'on a tendance à cliver ceux qui sont plutôt soucieux de la fin du mois et à ceux qui sont plutôt soucieux de la fin du monde, je trouve que c'est faux. Les gens ont une conscience qui fait qu'ils sont soucieux des deux à la fois.
Et ça, c'est extrêmement important, Philippe Biwix, parce que vous expliquez, puis ce sera un petit peu le mot de la fin, mais que les évolutions techniques transforment les sociétés et que donc, il faut absolument qu'on évolue dans le bon sens.
Il y a quand même beaucoup d'espoir, de mon point de vue. Alors, d'espoir à travers des pratiques et des expérimentations.
Ce que fait Alassane Diallo, par exemple, à Bagnolet.
Mais aussi, là où il y a de l'espoir, c'est qu'en fait, le gâchis est tel qu'il y a de quoi faire. Et l'être humain se réalise dans l'action, c'est d'accord, et est bourré de talent. Et on peut, donc, agissons. Il y a plein de choses à faire. Et effectivement, les sociétés évoluent beaucoup aussi. Et on a vu, par exemple, encore une fois, avec la crise sanitaire, je ne veux pas trop tirer le truc, mais sur la pratique du vélo, le télétravail, enfin plein de choses, même effectivement les capacités de vivre ensemble, de bricoler, de jardiner. On voit arriver des pratiques nouvelles qu'on aurait trouvées complètement folles ou de science-fiction il y a 20 ans ou 30 ans, et pourtant qui deviennent presque monnaie courante. Et donc, que sera le monde dans 20 ou 30 ans? Il aura changé autant qu'il a changé en 20 ou 30 ans. Et ça peut être dans le bon sens, dans le sens d'une transition juste et quelque part d'une sobriété vraiment organisée et systémique.
Et bien voilà, on va terminer sur cette note d'espoir. Donc, votre bande dessinée, Philippe Biwix, co-écrite avec Vincent Perriot, ça s'appelle « Ressources, un défi pour l'humanité ». C'est publié chez Casterman. L'association Temps Libre, pour s'inspirer de ce que vous faites à la Sainte Diallo, il suffit de taper « Temps Libre » dans les moteurs de recherche et on vous retrouve.
Oui.
Vous avez un autre lien à donner ?
venez me voir sur le terrain à Bagnolet, à Livry, comme ça du coup on sera dans le concret.
Voilà, ça c'est pour ceux qui sont à Paris ou pas trop loin, et puis pour ceux qui sont beaucoup plus loin, utilisez les réseaux sociaux. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus dans le studio 52 de RFI.
Merci
à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission, et à vous évidemment, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.